Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, avec Régis Castelnau. Bonjour Régis, vous êtes avocat.
Bonjour Valérie.
Votre blog Vue du droit, votre livre Une justice politique est paru aux éditions L'Artilleur. Alexandra Spinner, bonjour, conseillère régionale LR d'Île-de-France. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Et Matteo Ghisalberti, vous êtes journaliste franco-italien à Fil de Média.
Bonjour.
Bonjour à tous. Eh bien oui, l'actualité c'est encore et toujours ce qui s'est passé dans le 18e arrondissement de Paris, une affaire qui devient politique avec Jean-Luc Mélenchon qui assume ses propos quand il dit « la police tue ». On va y revenir, on va parler des législatives avec un petit peu partout des articles qui nous disent que Emmanuel Macron et la majorité commencent à s'inquiéter et puis aujourd'hui grève à l'hôpital, mobilisation des soignants. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, on va commencer avec vous Alexandra Spinner, c'est un coup de gueule.
Oui, un vrai coup de gueule. Le gouvernement relayé par l'Agence régionale de la santé, évidemment soutenu par la mairie de Paris, qui est toujours friande de funestes projets, a décidé d'installer au cœur du 16e arrondissement, à côté des écoles, à côté de lieux de vie où les familles se côtoient, un centre de désintoxication pour consommateurs de crack.
Voilà. De shoot.
Voilà, une sorte de salle de shoot, mais surtout, ce qui est insupportable, c'est la brutalité de cette politique. C'est toujours sans concertation, toujours, et toujours au détriment des habitants. Voilà.
Ouais. Donc, alors après, on va vous dire qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient tous dans le 18e ou dans le 19e.
Mais nous sommes solidaires du 18e, du 19e, de tous les autres arrondissements. C'est tout simplement inacceptable. Le 16e arrondissement est un arrondissement très solidaire, très accueillant. Il faut arrêter avec les préjugés ridicules. Vous ne pouvez pas accepter, je crois qu'aucun de nous ne peut accepter, que nos enfants soient au contact quotidien de consommateurs de crack. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas les soigner. Évidemment qu'il faut les soigner, mais loin des centres urbains, parce qu'on sait très bien que ça crée des points de deal, que ça crée du désordre et que ça crée de la délinquance. Mmh. Donc, je trouve que y a une espèce de complicité malsaine entre le gouvernement et la mairie de Paris pour installer le désordre dans les quartiers. Et je dois dire que Madame Hidalgo a une petite préférence pour le 16e arrondissement quand il s'agit de projets terribles comme ça. Voilà.
Ouais, Samuel
c'est toujours la même chose. Idéologie. Ouais. Idéologie. Ça fait des années qu'on nous parle des salles de shoot comme solution extrêmement, comme solution formidable pour soigner ces personnes droguées. On voit très bien que finalement, en fait, ça ne marche pas et que ça crée des désordres. Et ces désordres, il faut en parler parce qu'effectivement, là, on parle notamment de Paris. Ce qui se passe, c'est que quand les politiques de gauche, en général, promeuvent ce genre d'établissement, eh bien, ils leur refusent de voir ce que pensent les riverains, ce que vivent les riverains et les conséquences négatives visibles et prévisibles sur leur vie.
Mmh. Oui, absolument. Ouais. Et surtout, il faut vraiment rappeler que les consommateurs de crack ne sont pas des drogués comme les autres. Mmh. Voilà. Oui. Ils nécessitent vraiment d'être isolés.
On voit les résultats dans la colline du crack, où il n'y a pas un centre de soins. Mais de toute façon, bon, on voit les problèmes d'ordre public qui se présentent aussi, justement, avec des familles, des riverains. Il y avait le parc des Halles, non ? Le jardin des Halles. Effectivement, il y a un problème, mais ce n'est pas seulement le problème d'Anne Hidalgo. Je trouve qu'il y a effectivement un problème de
santé
démocratie.
Publique aussi.
Mais des démocraties aussi, parce que ce n'est pas normal qu'on confie tous les clés à un seul pouvoir, c'est-à-dire celui du maire d'une ville, pour prendre des décisions qui concernent tout le monde. Et on donne aussi les clés de façon à lui permettre de agir comme si c'était une vengeance vis-à-vis d'une population qui habite dans un certain quartier, parce que soi-disant, c'est un quartier fortuné.
Préjugé ridicule.
Et naturellement, c'est toujours une chasse aux sorcières, c'est une espèce.
Alors, l'explication de la mairie de Paris, c'est de dire que ce ne sera pas une salle de shoot, c'est un lieu d'accompagnement. Les personnes qui iront dans ce centre seront envoyées par le réseau de soins.
Bien évidemment,
qui les accompagnera par
un mot, Régis, sur ce sujet.
Alors, oui, moi j'ai des préjugés sur le 16e. J'ai un souvenir. J'ai un souvenir d'une compagnie de CRS dans la rue au moment des Gilets jaunes et tous les bourgeois aux fenêtres, allez-y, tuez-les, etc. Ouais. Je déteste ce quartier, j'assume mes préjugés. Mais là, je pense que notre ami...
Ça n'étonnera personne.
Voilà. Je pense que notre amie Hidalgo est plus que nulle. Elle fait comme d'habitude. Elle est incapable de régler et de traiter, surtout de traiter les problèmes tels qu'ils se posent et là où ils se posent. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la démagogie. C'était ce qu'avait fait Yann Brossa avec les centres d'accueil de réfugiés et de migrants. Hein, elle va mettre les abcès, les furoncles, elle va les mettre chez les riches. Ah, vous avez vu, hein? Comme quoi, moi, pour moi, l'égalité, c'est qu'on est des furoncles chez tout le monde. Mais c'est tellement nul.
Le 16e arrondissement n'est pas un arrondissement de riches. C'est un arrondissement extrêmement varié. Je vous invite à aller.
Très grand, mais quand même.
C'est un arrondissement où il fait bon vivre encore, malgré Madame Hidalgo et malgré la politique du gouvernement. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'Agence régionale de santé, c'est le gouvernement. Hein, c'est pas Madame Hidalgo, l'ARS, c'est le gouvernement. Donc il y a une collusion entre Madame Hidalgo et le gouvernement pour nuire à la qualité de vie des habitants de cette ville.
Enfin, oui, de cette ville, c'est ça. Ça c'est au-delà du 16e, du 16e arrondissement. Mais là, la question des toxicomanes, elle est là et elle est réelle aussi. Qu'est-ce qu'on en fait?
Mais il faut les mettre en dehors des centres urbains.
Personne n'en veut, not in my backyard, c'est-à-dire que vous les mettrez. Vous allez les mettre.
Anne Hidalgo ne se rappelle aussi.
Dans un champ de betteraves dans le nord de la France.
Non, mais tout simplement, maintenant, on sait qu'à Paris, il y a un problème aussi d'ordre public, de sécurité, et que la présence de ces personnes addictes au crack augmente ce problème de sécurité. Et d'ailleurs, tout le reste du monde sait pertinemment qu'à Paris, il y a des risques grave pour sa sécurité. Si on vient en tant que touriste ici à Paris, on risque la vie. Ouais. Plus que dans d'autres villes européennes. Parce qu'il y a beaucoup d'insécurité.
Des no-go zones, oui.
Voilà, donc moi je suis bien content que qu'on puisse considérer des parcours de soins pour des personnes qui effectivement ont eu le malheur de tomber dans la dépendance des drogues, mais
évidemment.
Et en même temps, n'oublions pas que ça fait pas une bonne carte de visite pour.
Allez, Paris. C'est l'heure du journal. Il est 10h57 sur Sud Radio. On se retrouve tout de suite après avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Régis de Castelnau. Régis, vous êtes avocat, vous tenez un blog passionnant qui s'intitule Vue du droit. Vous avez publié une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Ça existe toujours, Front Populaire ?
Mais qu'est-ce qu'elle est méchante ?
Non, mais je n'en entends plus parler, donc je vous pose la question.
Ça, c'est méchant.
Non ?
Valérie Expert, c'est un trimestriel.
Et ça marche très bien.
Voilà.
D'accord, très bien.
Alors, il y a également un site internet que vous pouvez aller. D'ailleurs, vous devriez le consulter tous les jours.
Oui.
Et le dernier numéro du trimestriel est paru. Là,
très bien. Merci. Alors, voilà.
Je fais ma pub.
Faites votre pub. Alexandre Aspinaire, conseillère régionale LR d'Île-de-France, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, et Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Fil de Média. On va revenir sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, la police tue, et sur ce qui s'est passé dans le 18e arrondissement de Paris, les législatives, est-ce que la majorité est en train de paniquer, puis la grève à l'hôpital et la mobilisation des soignants. Coup de gueule de Régis de Castelnau.
Oh, je vais être rapide. La campagne, vous savez, je crois que c'est Santé France qui fait une campagne où on voit des gens qui s'étreignent. Oui, mon père est gay. Oui, ma fille est lesbienne, etc. Ouais. J'en ai un peu marre de cette façon, finalement assez impudique, de traiter des problèmes. L'homophobie est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup reculé. Hein. Moi, je me rappelle, dans mon jeune temps, Absolument. Je ne connaissais pas d'homosexuels heureux. Je pense qu'il y a une grande tolérance qui a progressé. Maintenant, il faudrait passer à l'indifférence. Et je trouve que ces campagnes sont plutôt contre-productives, d'ailleurs. Elles sont assez ridicules. La preuve, d'ailleurs, elles sont immédiatement détournées sur les réseaux avec des choses très drôles.
Régis, vous ne pensez pas que c'est Mathéo. Contre-productif aussi parce que c'est Santé France qui fait des campagnes publicitaires comme ça. C'est comme si on considérait l'homophobie ou l'homosexualité comme une maladie. C'est hallucinant.
C'est ça le vrai problème.
Non, mais c'est effectivement un peu un peu étrange. Mais moi, elle me met la musique me dérange, ces musiques un peu. Enfin bref,
tout
mais
est dérangeant, je crois, dans cette campagne de pub.
On a noté votre coup de gueule. Alors, Mathéo, c'était.
Moi aussi, j'avais rapide un coup de gueule parce que j'ai pas du tout apprécié le tweet avec la photo de Danielle Simonet et de la députée Obono avec Jeremy Corbyn, qui était l'ancien responsable, enfin chef de laboriste anglais et qui a tenu des propos antisémites. Donc je constate encore une fois que dans l'extrême gauche islamophile, il n'y a pas de problème quand on est antisémite. Et d'ailleurs, d'autre part, il faut considérer que cette même force politique défilait en Paris en 2019 en criant avec l'étoile jaune cousue sur les vêtements. Et il y avait des gens qui criaient à la Akbar. Donc, je constate ça. Et je voudrais que un peu plus de médias français traitent cette cette photo.
On l'a un petit peu évoqué hier, c'est vrai que en plus le parti des insoumis a continué à affirmer qu'il n'était pas antisémite. Il a été exclu de son parti pour cette raison. Il y a eu plus de 1000 plaintes. Oui. Daniel Simonet dit honte à vous. Jeremy Corbyn n'a jamais tenu un seul propos antisémite.
Oui, Daniel Simonet est capable
d'une grossière manip parce qu'il incarnait l'aile gauche.
Quand on attaque...
C'est simple, la France insoumise cherche les voix des banlieues islamiques pour les législatives. C'est très clair, on le savait depuis des années, maintenant ils ne se cachent même plus, ils ont déjà fait la présidentielle, maintenant le discours est clair. Hein. Et ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs. C'est clairement un objectif, une stratégie pour eux, et ils veulent surfer là-dessus, ils ont déjà changé d'électorat.
L'antisémitisme et l'antisionisme est dans l'ADN de ces gens-là. C'est la gauche Dieudonné et Corbyn. On a les héros qu'on mérite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Alors, Régis.
Oui, je trouve que ce débat est complètement biaisé. Traiter Corbyn d'antisémite, Corbyn, ce qui lui a été reproché, c'est d'avoir été d'une certaine façon laxiste avec des manifestations d'antisémitisme au sein de son propre parti, d'antisémitisme à base musulmane. Hein. Il existe un antisémitisme musulman fort
Qui est
un gros problème aujourd'hui. Ce qu'il lui reprochait, il a pas tenu, c'est pas vrai, des propos antisémites, mais...
Il a un vocable qui est du ressort de l'antisémitisme et de l'antisionisme.
Je vais donner un exemple personnel. J'ai la plus totale horreur de l'antisémitisme et de ses conséquences, en particulier la Shoah.
C'est surtout un délit. Hein.
Toujours est-il que qu'est-ce qu'on lui a reproché à Corbyn? D'avoir été dans les territoires occupés, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et d'avoir été à une cérémonie d'hommage à un des commanditaires de l'attentat de Munich. Hein. Donc, effectivement...
Un terroriste, donc.
Oui.
Merci.
Non, pas un terroriste.
Chacun sa notion du terrorisme. Je vous en laisse la responsabilité.
C'est quelqu'un qui ensuite a été considéré par les Israéliens. Vous avez peut-être vu le film qui s'appelle Munich.
Oui.
Écoutez, je vais vous raconter une petite histoire, moi. Le représentant en France de l'OLP a été assassiné. On le voit dans le film, d'ailleurs, c'est très, très bien fait. Les agents israéliens évitent de lancer la bombe, de la faire exploser parce qu'il y a une petite fille, etc. Il se trouve que par la suite, j'ai été l'avocat de la femme de M. Amchari. Est-ce que pour autant, on doit me qualifier d'antisémite?
C'est un peu différent. J'ai vu hier, il y avait eu un reportage explicatif sur justement ce qu'il avait fait, c'est-à-dire aller déposer une gerbe sur ces terroristes, sur la tombe de ces terroristes. Et puis il a dit mes amis du Hamas et mes amis du Hezbollah.
Et tout le vocable autour des banquiers, ces allusions un petit peu nauséabondes. On sait très bien que l'antisionisme, c'est l'antisémitisme de bonne loi.
Chez les gens de gauche.
Allez-y.
Je pense qu'il est aussi l'enjeu d'une lutte, d'une bataille sur les notions antisionisme, antisémitisme. Je pense qu'effectivement, l'antisionisme est souvent le masque, et trop souvent le masque de l'antisémitisme. Oui. Mais je trouve voilà que aujourd'hui, alors attendez, mais je vais quand même parler de la France insoumise. Donc je trouve que c'est excessif le procès qui est fait autour de la venue de Corbyn. En revanche, les complaisances démagogiques de la France insoumise, la surenchère, les barbecues halal, etc., etc., montrent bien, la volonté de séduire les banlieues, de séduire l'immigration pour des raisons bassement électorales. Et je me rappellerai tout à fait, mais ça me gêne beaucoup plus, la participation à la fameuse manifestation du 10 novembre, je ne me rappelle plus l'année, et d'aller crier à la Ouagbar derrière le patron du CCIF. Donc, là, je pense que le problème, il est celui-là. Ce n'est pas spécialement l'invitation de Corbyn qui manifeste.
On ne va pas refaire tout le débat, et des auditeurs me disent il n'y a pas que les gens des banlieues qui votent pour Jean-Luc Mélenchon, effectivement. Et tous ne sont pas antisémites, tous ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
Fait, évidemment.
Un mot, Samuel Lafont.
Sur ce sujet ?
Oui, rapidement.
Mais quand même, une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, si vous prenez un électorat, vous pouvez vous dire que vous avez plusieurs segments dans votre électorat, et une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, une partie de l'électorat de la France insoumise, qui est clairement les banlieues islamisées. On le savait depuis des années, on savait que c'était aussi un changement de cap à gauche en termes d'électorat, vu qu'il ne touchait plus tous les ouvriers, il voulait trouver un nouvel électorat pour garder des sièges à l'Assemblée et dans les différentes municipalités. Eh bien, là le discours de Jean-Luc Mélenchon est très clair. Et en fait, on voit un lien qui est fait entre il parle de social, quand ils disent qu'il y a des problèmes, en fait, on voit bien que la France insoumise excuse tout ce qui se passe dans les banlieues, excuse les attaques contre les policiers, simplement pour donner raison à ces banlieues et même parfois indirectement à ces gangs. Parce que quand vous dites que les racailles sont juste des jeunes qui, en fait, sont mal accompagnés, qui ont des passés difficiles, etc., pour justifier qu'on attaque des policiers, parce que c'est ce qui se passe, en fait, et c'est le discours qui est en train d'évoluer, eh bien, on prend parti. Et clairement, Jean-Luc Mélenchon et son parti a choisi son camp à ce sujet. Et donc, il est soutenu et il cherche le soutien de banlieues islamisées.
Alors, votre...
Mais c'est beaucoup plus significatif que Corbyn, ça. Je suis d'accord. Il n'a pas voulu qu'on appelle délinquants les gens qui ont rançonné les supporters anglais et espagnols. Oui.
J'allais
c'est extraordinaire.
Venir.
Oui.
Alors justement, ça rejoint le coup de gueule de Samuel Lafont.
Absolument, Valérie. Il y avait des groupes de 30 personnes qui couraient partout. Des grandes meutes. Certains d'entre eux avaient des armes, des machettes, des couteaux, des barres de fer, des battes. Il fallait juste essayer de s'enfuir de cet endroit. Les gens étaient mis au sol. On leur volait leurs montres et leurs affaires. Certains se sont fait arracher leur sac. Ils les agrippaient, les attiraient vers eux et coupaient la lanière pour arracher le sac et courir. Vous savez ce que c'est ça ? C'est un des très nombreux témoignages de supporters qui étaient au Stade de France. Et là, en l'occurrence, on parle de l'après-match, dont les médias ont très très peu parlé. Évidemment, ce qui s'est passé avant le match est scandaleux. Et d'ailleurs, on n'en parle pas assez, parce que Gérald Darmanin et tout le gouvernement Macron a menti de manière éhontée, parce qu'au moment où Darmanin prétendait que c'était la faute des supporters britanniques ou de supporters du Real qui auraient créé la cohue devant le Stade de France, on voyait très clairement les images de ces gangs armés qui venaient attaquer les femmes, on sait qu'il y a eu des agressions sexuelles, qui venaient attaquer des familles, qui ont volé des billets, qui ont agressé, qui ont fait les poches pour des dizaines, des centaines de milliers d'euros. On voit des personnes qui sont faites tabasser à terre. On a toutes les vidéos, toutes les images. Et pour l'instant, le gouvernement Macron, malgré la juste rancœur des Français envers ce qui s'est passé, le gouvernement Macron s'en sort encore trop bien. Oui. C'est inqualifiable ce qui s'est passé. Et moi, j'ai envie de dire à tous les gens qui pensent encore voter pour des candidats d'Emmanuel Macron aux législatives, aimez-vous qu'on vous mente. Oui. Parce que là, Gérald Darmanin vous a regardé les yeux dans les yeux et vous a dit ce que vous voyez est faux. La vérité n'existe pas. Et là, malheureusement, D'habitude, c'est un problème franco-français d'insécurité. Oui. Là, on est devenu la risée du monde. Oui. La risée du monde, avec des supporters britanniques qui portent plainte, qui déconseillent leurs compatriotes britanniques ou pour les Espagnols, de venir en France. Ce sont des centaines de milliers d'yeux dans le monde qui ont vu ce qui se passe en France, avec des gangs qui escaladent, qui assiègent au Stade de France pour essayer de passer par-dessus les barrières, qui agressent dans tous les sens et qui ne sont pas inquiétés par la police, pas de la faute des policiers, mais de la faute politique du gouvernement qui ne veut pas agir et qui préfère les racailles à nos alliés anglais et espagnols.
Alors, vous pourrez éventuellement réagir à ce que vient de dire Samuel Lafont. Ce sera à suivre dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous. Alors, il y a des auditeurs qui ne sont pas contents. Chris nous dit, vous êtes une radio de potins et de faits divers. Je ne sais pas si ce sont des potins et des faits divers, mais en tout cas, ce sont tout de même des symptômes. Ça dit des choses de notre société. Et cet accident, ce qui s'est passé dans le 18e, ce drame, je ne vais pas dire accident, mais ce qui s'est passé, puisqu'il y a une jeune femme qui a perdu la vie, est aussi symptomatique de notre société et de ce qui se passe aujourd'hui.
L'insécurité, c'est tout sauf des faits divers. Ben c'était l'excuse des laxistes pendant des années en nous expliquant c'est un fait divers, c'est un fait divers. Mais quand vous avez des, entre guillemets, faits divers qui se multiplient partout, quand vous avez des faits divers qui font que des femmes n'osent plus prendre les transports en commun le soir, avant c'était minuit, puis 23h, puis 22h, puis maintenant à partir de 20h, elles hésitent parfois à prendre le bus et le métro, eh bien ce ne sont pas des faits divers. C'est une insécurité qui explose, qui change la vie de nos concitoyens. Il faut bien comprendre quelque chose, moi je rappelle souvent ça, c'est qu'il est possible et souhaitable, évidemment, de vivre dans un pays sans insécurité. Ouais. Pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'y être encore allés, je les invite à aller un petit peu, s'ils le peuvent, au Japon et se rendre compte de ce que c'est, et dans d'autres pays européens que la France, de se rendre compte de ce que c'est de vivre en tranquillité. En fait, pour les plus jeunes, souvent, ils n'en ont pas conscience et d'autres l'ont oublié. En fait, on devrait pouvoir sortir de chez soi sans avoir à craindre pour notre sécurité. On devrait pouvoir laisser nos enfants circuler librement. Je parlais du Japon. Au Japon, les enfants vont tout seuls à l'école, dans la grande majorité des cas, sans avoir à craindre pour leur sécurité. Et la réalité, c'est qu'on s'est habitué à ça. Donc ce sont tous sauf des faits divers. On sait qu'il y a un lien avec l'immigration, des choses qui sont dénoncées depuis des années. Et quand les laxistes ont refusé de voir la réalité, quand les laxistes ont dit qu'en fait, il n'y avait pas d'augmentation d'insécurité, que c'était juste un sentiment d'insécurité, eh bien, ils ont caché le réel. Et maintenant, le réel, il explose aux yeux de tous. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des meutes de racailles qui peuvent agresser des supporters librement, faire les poches, agresser sexuellement des femmes devant le Stade de France. Et le gouvernement, par idéologie, refuse d'agir.
Alors, Stéphane dit, est-ce que vous avez conscience que les Français ont peur de leur police ? Moi, je n'ai pas peur de la police.
Je m'arrête,
on me dit de m'arrêter, même si j'ai fait une infraction, ce qui peut m'arriver, je ne suis pas contente, mais je m'arrête. Là, on vient d'apprendre à l'instant qu'un policier vient de tirer sur un automobiliste dans le Val d'Oise cette nuit, âgé de 21 ans, soupçonné d'avoir refusé un contrôle. Il a été blessé aux deux. Le jeune homme conduisait à vive allure dans le centre-ville d'Argenteuil, un peu avant 4h du matin. Un équipage de police le suivait alors qu'il prenait des sens interdits donc à toute allure et donc le conducteur cale, l'équipage a mis pied à terre pour procéder au contrôle, l'individu redémarre, coince une policière entre sa voiture et le véhicule de police l'obligeant à monter sur le capot, un des policiers a tiré une cartouche, donc je vous rappelle les chiffres la police, enfin de ce qui sont officiels, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France.
Mais, et avec la volonté de tuer.
De quoi ? De la part des policiers, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, ou des fuyards ?
Effectivement, moi ce qui m'a fait ressentir le fait d'entendre Mélenchon qui disait que la police tue, déjà je me suis dit, alors en France on parle toujours du front républicain, mais j'ai un peu l'impression que c'est à géométrie variable et que surtout c'est myope aussi, parce que d'un côté il y a à peu près un mois on disait qu'il y avait un risque de peste brune dans ce pays, là on a la présence réelle d'agents de subversion. Parce que c'est une subversion à l'ordre, ce qui prône Jean-Luc Mélenchon et beaucoup de ses candidats. Et personne ne dit rien. Et c'est pour ça que, effectivement, vu de l'étranger, je répète encore une fois comme ce que je disais tout à l'heure sur Paris, il y a un problème en France et c'est dangereux pour aussi des entrepreneurs de venir investir en France parce que on ne sait pas si à cause d'une action des malintentionnés ou des gens qui ne sont pas contents pour quelque chose que peut-être c'est effectivement réel, mais ils dévastent toute une entreprise ou bien il met en péril la vie d'un entrepreneur.
Alexandra Spinner.
Oui, heureusement pour M. Mélenchon que la connerie ne tue pas, pardon. Mais franchement, à chacun sa conception de l'État. Moi, je trouve, évidemment...
Parce que ça prend une dimension politique, cette affaire,
évidemment,
en fait.
C'est totalement politique. La mort de cette jeune femme et la mort en général, de quel qu'il soit, c'est toujours une tragédie. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus.
Forcément.
Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nos policiers ne peuvent plus exercer leur métier, qui est de nous protéger dans de bonnes conditions. Et ça devrait collectivement nous émouvoir et nous scandaliser. C'est ça le sujet. Ils travaillent dans des conditions qui sont inacceptables. Et franchement, il faut regarder les chiffres. Hein, voilà, parce que ce sont les chiffres les plus éloquents. Il y a évidemment des sujets, et il faut les traiter. Mais je pense qu'on peut être fier de notre police en France. Voilà, et il faut le dire.
Juste dire, moi j'ai un petit coup de gueule... un gros coup de gueule ce matin pour des confrères d'une radio concurrente qui ont donné le témoignage de l'un des passagers de la voiture. Moi, je pense que tous les témoignages ne se valent pas. C'est-à-dire qu'on a appris que le conducteur avait eu plus de 80 condamnations, qu'il était en liberté conditionnelle, qu'il ne respectait pas son contrôle judiciaire. Celui qui parle a aussi un casier judiciaire important. Je ne dis pas qu'il ment, je dis simplement qu'on n'ouvre pas l'antenne avec un pseudo-scoop où un type raconte que les policiers ont tiré. Peut-être il y aura une enquête, il y a des vidéos visiblement, mais donner la parole, dire que la parole de cet individu vaut celle des policiers qui sont aujourd'hui en garde à vue, sont dans une cellule, j'avoue que j'ai été assez étonnée, voire choquée de ça. Jean-Luc, je vais vous appeler Jean-Luc.
Bravo.
C'est pas la première fois. Régis de Castelnau, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ce que je dis va choquer, mais je pense que toute parole ne se vaut pas.
Eh bien, écoutez, je vais continuer à choquer, moi.
Oui.
D'abord, le plateau, en disant, quand je vous ai tous entendu dire « j'ai pas peur de la police », on va poser la question aux supporters anglais et aux supporters espagnols qui ont été gazés par cette police qui a donné 1 million d'amendes dans le premier confinement, etc., oui. etc., qui a fait du zèle, parce que c'est plus facile de s'attaquer aux braves gens que de s'attaquer aux racailles.
Donc, qui moi, donne les ordres à la police ?
Nous allons parler justement.
Il y a beaucoup à dire. Deuxièmement, Jean-Luc Mélenchon, enfin, écoutez, allez, je vais pas être grossier sur le plateau, mais on voit bien le Terra Nova. Alors là, il est là avec les t-shirts, on imagine, ou Edwy Plenel, la police tue, donc il est en train de se tourner vers Nuit Debout, la petite bourgeoisie déclassée, plus ceux qui ont conquis contre la police les quartiers, comme on les appelle. Donc, tout ça est tout à fait, je vais dire, une démagogie à ce point-là. Je l'en pensais pas capable parce que c'était quelqu'un d'intelligent que je connais et qui a du talent. La deuxième observation, c'est par rapport à cette histoire de refus d'obtempérer. Ces gens-là mettent en danger leurs contemporains, si vous voulez. Et alors, quand les histoires, on n'en entend plus parler, comme la mort de ce pauvre docteur Alban Gervais, c'est un autre sujet, mais là aussi. En revanche, on va chez Hanouna, on est délinquant, là, je suis entièrement de votre avis, Valérie. Et surtout, il y a quelque chose, moi, je ne vais pas sacrifier à la position qui consiste à dire il y a eu des morts, c'est une tragédie. Non, on prend ses responsables. Moi, ça ne me touche pas. Je ne veux pas la mort de ces gens-là, mais ça ne me touche pas. Qu'on ne me demande pas de réclamer de la compassion pour des gens qui mettent en danger la vie des autres, qui les agressent, qui ont 80 condamnations et qui refusent d'obtempérer. Effectivement, je ne vais pas dire que ce sont les risques du métier. Alors, je vais me faire agonir d'injures. Non, moi, je ne souscris pas à ça. Les policiers sont chargés de restaurer la sécurité face à des gens qui la violent et qui commettent des délits et des crimes, moi, ça ne me gêne pas. Alors, en revanche, ce qui est juste et justifié, c'est que l'IGPN, lorsqu'il y a l'usage d'une arme hein, ayant eu des conséquences de cette nature, hein, à un système d'enquête qui passe par la garde à vue, c'est la procédure normale, hein, etc. En revanche, vous vous rappelez, on en avait parlé sur ce plateau, hein, voir des petits magistrats sortis de l'École nationale de la magistrature et de leur endogamie venir les mettre en examen pour meurtre, hein, uniquement pour faire joli comme ça, hein, vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, ça me choque également profondément.
On va en reparler dans un instant. Très étonné aussi par les réactions de certains de nos auditeurs qui me disent « Ce que vous défendez, c'est un permis de tuer. » Véronique me dit « Donc on tire à tout va. » Mais ce sont des policiers, ce ne sont pas des boulangers, ce ne sont pas des charcutiers, des libraires. Ce sont des policiers. Ils doivent faire respecter l'ordre. Quand ils sont menacés d'être tués, ils ont un revolver. Donc ce n'est pas un permis de tuer.
Ils ont un permis de tuer, encadré par la loi, mais ils ont la violence légitime. Oui, ils ont un permis de tuer. Il faut arrêter de ces incantations.
Ça veut dire que le relativisme commence vraiment à imprégner les esprits là-dessus. C'est ce sujet en ligne dont il faut parler après.
Alors, on y revient dans un instant. Petite pause. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, et oui, nos propos font débat à propos de la police. Stéphane nous dit on ne se lève pas le matin pour finir à la morgue. Non, mais on ne se lève pas le matin non plus pour prendre des contresens, pour essayer de tuer des flics, parce que quand on démarre et qu'il y a un policier en vélo devant vous, ça veut dire quoi? Alors, à ceux qui me disent vous défendez un permis de tuer, je ne défends évidemment pas un permis de tuer, je vous pose la question, que doivent faire les policiers? Vous aussi, vous êtes en danger si vous êtes dans la rue et que vous avez un individu qui roule à 100 km en sens interdit et que vous traversez. Ce qui s'est passé pour cette jeune femme au Pont-Neuf il y a une semaine, qui a été une jeune femme de 23 ans qui traversait et qui a été tuée par un chauffard, elle aussi, elle a demandé à mourir, elle aussi, elle a demandé à être tuée. C'était encore un refus d'obtempérer.
Et le fils de
Yannick Aleno.
En fait, donc, ça s'enchaîne tellement qu'on finit par oublier les victimes.
Je ne comprends pas la logique. Ça veut dire que... Alors, je vous renvoie la question à vous, auditeurs qui m'insultez, parce que vous insultez, de dire qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'un délit de fuite? On laisse faire? On fait quoi?
Je pense qu'on met le doigt sur un sujet qui est extrêmement important et dont on parle malheureusement très peu. C'est qu'il y a un discours binaire qui est en train de s'installer sur la police. Et d'ailleurs, dont se sert la gauche en général contre la droite. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, il y a une violence légitime de l'État avec des personnes qui sont des Français, qui sont payés pour protéger la population, pour intervenir lorsqu'il y a des agressions, des incidents, des crimes, etc. La réalité, c'est que après ce qui s'est passé pendant la période de la Manif pour tous, après ce qui s'est passé pendant la période des Gilets jaunes, une partie de la population française a été mise en face de ces policiers par le pouvoir politique. Par le pouvoir politique qui a utilisé la police contre la population. Donc le souvenir qu'ont une partie de ces gens vis-à-vis de la police ou de la gendarmerie, c'est qu'ils étaient contre nous à un moment où on avait une lutte qu'on estime juste. Par exemple, le pouvoir d'achat pour les gilets jaunes et puis le fait d'être oublié et pas considéré. Mais la réalité, c'est qu'il y a une différence entre cette utilisation politique de la police contre les manifestants et le rôle des policiers au quotidien. Et effectivement, quand vous êtes un policier et que vous êtes attaqué, parce que maintenant, ce qui change, ça a évolué, malheureusement, pour le pire depuis des années, les policiers sont attaqués pour être tués par des racailles. Ils se font des voitures, des conducteurs leur foncent dessus en voiture. Des gens essaient de les... Quand on voit qu'il y a des agressions, il y a quelques années, par exemple, un policier se faisait voler son arme, pas son pistolet, mais une arme qui est sur lui, une gazeuse, et puis les racailles partaient. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les racailles essaient d'attraper les policiers, de les faire tomber par terre et les frapper comme dans des combats de MMA. Absolument. Ça, on ne l'avait pas il y a quelques années. Il faut bien voir qu'il y a une évolution de la violence. Et si vous considérez que la violence... On parlait des témoignages, mais c'est la même chose... que tous les témoignages se valent et que toutes les violences se valent, vous vous trompez. Parce qu'en fait, la racaille qui agresse le policier à 10 contre 1, elle pourra vous agresser aussi à 10 contre 1 demain. Et elle n'interviendra pas pour vous aider. La réalité, c'est que le policier, il est payé par l'État, par vous, par vos impôts, et le gendarme, pour vous aider. Et il faut vraiment faire un distinguo entre l'utilisation politique qui est faite des forces de l'ordre dans les manifestations et qui peut laisser de mauvais souvenirs qu'on comprend très bien aux Français, et le quotidien de l'insécurité qui explose malheureusement.
Oui. Je peux dire juste deux choses. La première, j'ai couvert plusieurs manifestations de gilets jaunes et effectivement, j'ai risqué moi aussi de me faire prendre dans des nasses qui était injustifié, la plupart des cas, au moins celle que je voyais, mais je constatais toujours que ces policiers, en réalité, devaient répondre à des ordres qui étaient politiques, effectivement, voilà. Politique. Et qui, comment dire, étaient facilement applicables, je mets entre guillemets, parce que l'objectif était identifié, c'était ouais. Alors que on laissait de toute façon passer, on leur disait de ne pas s'attaquer, par exemple, au Black Bloc, qui était identifiable facilement, parce que tout le monde pouvait le oui. voir, et le gouvernement ne les laissait passer. Désolé, parce que c'était comment dire, quelque chose de politique. Je dis à propos de la police, si vous me permettez, Valérie, il y a une opération antiterrorisme en cours en Italie, je lis sur le site d'une agence de presse ADN Chronos, pour citer la source, et il y a une vague d'arrestations en Italie, au moins 14 personnes, toutes des personnes qui sont en relation avec le citoyen pakistanais qui, le 25 septembre 2020, avait attaqué des personnes
à côté de Charlie Hebdo avec ouais. une Charlie machette. Hebdo, ouais.
Exactement. Et il ferait partie d'une cellule. Et cette opération, naturellement, est en relation avec les polices d'Espagne, de France et d'autres pays européens. Donc, merci la police, parce que, bon, en ce cas, elle est en train de travailler en Italie. Mais...
Ouais. Juste pour finir sur le sujet, Stade de France. La police est appelée à gazer des supporters britanniques qui n'avaient rien fait. Il faut arrêter de mentir, comme l'a fait le gouvernement, en disant qu'ils étaient venus avec des millions de faux billets et qu'ils avaient mis le bazar. On sait très bien, on a vu les images, on sait très bien qu'il y a mis le bazar. En revanche, il y a des gangs armés de racailles qui ont été laissés libres parce que le politique, et pas le policier sur place, le politique a choisi de ne pas intervenir.
Et de ne pas les arrêter. La question, effectivement, elle est aussi sur la justice, cher Régis de Castelnau.
Alors, si vous voulez, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Oui, la police bénéficie du permis de tuer. Mais une fois qu'on a dit ça, sinon pourquoi on les arme ?
Bah oui.
Avec des armes létales. Enfin, faut être sérieux. Bon, le problème, c'est qu'ils ne peuvent le faire que dans des circonstances parfaitement identifiées, leur protection à eux et la protection d'autrui. Et la protection d'autrui. Hein. Bien. Alors, vous dire que la justice, dans le contrôle et l'appréciation de ces circonstances, a parfois tendance, effectivement, à, se laisser aller à de l'idéologie. Mais entendre cette phrase, vous voulez un permis de tuer, c'est n'avoir rien compris au fonctionnement d'une société et à l'usage de la violence légitime. Parce que si, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que ce soit comme aux États-Unis où tout le monde est armé ? Ce qui fait que la police tire vite, parce qu'elle est toujours en danger, la police, toujours en danger, on le voit bien d'ailleurs, ils sont extrêmement tendus et nerveux, et donc il y a des bavures en permanence, enfin ce que moi j'appellerais des bavures. Donc non, on a la chance d'avoir effectivement un pays qui n'est pas armé, une police qui doit l'être, et qui, lorsque c'est nécessaire, doit pouvoir s'en servir sans que des démagogues à la petite semaine ou à la grande semaine, comme Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, parce qu'il a défendu des positions inverses il y a quelques années, c'est assez amusant de mettre ces déclarations antérieures en relation avec celles qu'il fait maintenant. Donc non, c'est de la démagogie
pure.
Alors
oui, Jean-Luc Mélenchon donc, qui assume son tweet d'hier, la police tue, il dit ce n'est pas normal qu'on tue quelqu'un parce qu'il refuse d'obtempérer. Bah, peut-être que quand vous êtes en danger, écoutez ce qu'il disait.
C'est mon devoir de le faire. Croyez-vous que j'écris comme ça, par distraction ? Vous avez bien fait dire qu'il y a eu deux tweets. Le premier, c'est lorsque les tirs ont eu lieu. Il ne s'est rien passé. Ce que je disais ne rencontrait aucun écho, comme si c'est normal. Et en effet, c'est contre ça que je proteste. Comme ça n'a rien donné, j'ai monté le ton. Et j'obtiens ce que je veux. C'est-à-dire que des milliers de gens entendent dire qu'il y a au moins une personne dans ce pays, un responsable politique, qui n'accepte pas l'évolution de l'usage de la force de police telle qu'elle est aujourd'hui définie par le pouvoir politique qui commande. Nous en sommes à 4 morts en 4 mois pour des refus d'obtempérer.
Bah, oui, il dit il y a la loi, des punitions, des amendes, mais pas la peine de mort. J'ai eu ce que je veux en montant le ton, voilà. Oui, il y a eu combien de policiers blessés, rappelez-moi,
qu'est-ce qu'il va nous expliquer ensuite ? Il va nous expliquer que des terroristes islamiques... font des refus d'obtempérer aux policiers quand les policiers leur demandent de se calmer et qu'en fait...
Rappelons le nom de Xavier Jugelet, par exemple.
Non, mais c'est juste délirant. Bah... Et puis, je ne vais pas rappeler ici les propos de Jean-Luc Mélenchon sur les attentats qui étaient très, très limites sur notre chaîne, où on devrait les ressortir d'ailleurs, sur les attentats islamiques.
Allez, je voudrais qu'on change de sujet, qu'on parle de l'hôpital, grève à l'hôpital, mobilisation des soignants, crise des urgences, avec de très nombreux services d'urgence, 120 environ, ont été forcés de limiter leur activité ou s'y préparent. C'est un chiffre qui est assez ahurissant. Les services d'urgence disent qu'ils s'attendent à un mois de juillet particulièrement difficile, un mois d'août terrible, horrible. La mission flash demandée par le président de la République est une insulte pour eux, c'est ce que dit Pierre Schwab-Tellier du collectif Interurgence. Et c'est vrai qu'on s'interroge sur les réponses que peut apporter le président de la République aujourd'hui. On a entendu ces intérimaires qui ont quitté l'hôpital. Ils ont quitté un infirmier à Comté, je l'ai entendu ce matin et on l'a lu dans Paris Match aussi, dans cet article, long article consacré aux soignants. Ils quittent leur métier, ils démissionnent de l'hôpital, ils se font embaucher comme intérimaires au double du salaire. Et j'en veux à Martin Hirsch qui parle du doux poison de l'intérim. Mais qui fournit la drogue? Qui a mis en place ce poison? Enfin, je pose la question à Martin Hirsch qui, je vous rappelle, est patron de la PHP. Ça concerne l'assistance publique aux hôpitaux de Paris depuis 2013. Mais c'est une situation qui existe partout en France. C'est complètement ubuesque.
Et si c'est aussi simple, c'est que le système est mal fait. La réalité, on en parlait déjà sur ce plateau, c'est qu'on a laissé l'hôpital mourir à petit feu, sans trop en parler. On a laissé les déserts médicaux s'installer en France, donc il y a une vraie fracture rurale avec des endroits où c'est très difficile de voir un médecin, et encore plus un médecin spécialiste, dentiste ou ophtalmo. Et maintenant, on se réveille. Ah, il y a un problème à l'hôpital. Ah, il y a des déserts médicaux. Mais c'est un peu tard. Et effectivement, je comprends que des soignants puissent considérer comme une insulte la mission flash annoncée par Emmanuel Macron, parce qu'on voit très bien ce que fait Emmanuel Macron ces derniers jours. Il regarde quels sont les sujets dont parlent les Français, quels sont les problèmes ces semaines-ci, dont on parle. Et puis, il annonce des mesures pour avoir un maximum de députés en essayant d'enfumer tout le monde. Moi, j'ai envie de dire aux Français, ne vous laissez pas avoir et ne croyez pas encore Emmanuel Macron, le menteur en chef.
Visiblement, ils se tournent plutôt vers NUPS que vers vous ou même les LR. Quand on regarde les premiers résultats, alors qui ne signifient peut-être pas la même chose, mais qui sont un petit test quand même
législatives. J'invite les Français très simplement, s'ils en ont assez de l'immigration massive, de l'insécurité et de la baisse du pouvoir d'achat, à voter à droite et plutôt pour Reconquête plutôt que pour Emmanuel Macron qui détruit leur pouvoir d'achat, qui fait venir encore plus d'immigrants en France et qui est et qui a augmenté l'insécurité en France sous son quinquennat.
Alexandra Spiner, sur les urgences et sur l'hôpital en général, une grève pour mettre la pression.
Bon, évidemment, je trouve que c'est presque offensant pour les soignants. Ce problème récurrent d'effectifs et de salaires, ça devrait tous collectivement nous insupporter. Enfin, on va se retrouver à nouveau dans une situation intolérable. Il faut rappeler quand même que ce sont les plus fragiles socialement qui en paieront les conséquences. Évidemment, cette fracture, qui a une vraie fracture en France, je veux dire, c'est insupportable de se dire que maintenant la médecine est accessible aux plus privilégiés. Moi, je trouve que c'est insupportable. Voilà. Le petit coup de baguette magique de Monsieur Macron ne trompera personne.
Est-ce que c'est vraiment les plus privilégiés? Parce que si vous voulez dire qu'il faut aller dans une clinique, sauf que vous n'êtes pas sûr d'avoir les mêmes soins dans une clinique. Aujourd'hui, c'est pas forcément celui qui a le plus d'argent qui est le mieux soigné. C'est une question de territoire.
De territoire.
C'est une question de prix.
Il y a une vraie inégalité territoriale, il y a une vraie aussi inégalité sociale, il faut le dire quand même. Moi, je suis hallucinée de voir qu'on alerte depuis des années sans résultat.
Oui,
et là, ce
longtemps.
Petit coup de pinceau pour cacher la merde du chat, c'est insupportable.
Il est déjà loin le temps où on expliquait systématiquement qu'on a le meilleur système de santé au monde, que tout le monde nous envie. On n'entend plus, hein.
Alors, en même temps, il faut que les Français se rendent compte qu'on ne paye rien. Enfin, on paye, ce sont nos impôts qui payent, mais il y a beaucoup de pays où vous payez quand vous allez.
Une immense chance.
C'est une immense chance. Vous allez à l'hôpital, vous ne payez rien. Régis.
Oui, mais il faut être optimiste, voyons.
Allez-y. Je sens que vous allez faire de l'ironie.
Monsieur Macron, qui laisse s'effondrer les fonctions régaliennes, hein, militaires, justice. Ouh là là, mon Dieu Seigneur, la police, on vient d'en parler. Hein, mais aussi les grands services publics. Je pense à l'éducation, à la santé. Hein. Eh bien, il vient de créer le Conseil national de la Renaissance, CNR, comme celui qui a construit à la Libération, en 1945, l'État-providence dont vous venez de parler, hein, c'est-à-dire, effectivement, auquel les Français sont attachés. Donc, il va finir de le démolir, il va finir de le déconstruire, hein, et avec la perversité qui le caractérise, comme il a fait pour l'éducation nationale, en nommant ministre de l'éducation, je veux dire, le contre-exemple, le symbole de ce qu'il ne faut pas faire, hein, un monsieur, effectivement, indigéniste et communautariste, qui a mis soigneusement ses enfants dans l'école privée la plus chère de France, enfin la plus chère, je ne sais pas si c'est la plus chère, mais en tout cas, c'est celle de l'élite. Hein, et bien là, il nous montre le CNR pour finir de laisser à l'abandon ces grands services publics. C'est une question directement politique. Ouais. Voilà.
Ouais. Mais ce débat montre quoi, au fond, que ceux qui sont vraiment en première ligne et qui sont mais essentiels pour chacun d'entre nous, les policiers, les enseignants, les soignants, sont complètement délaissés par M. Macron.
Mais voilà. on a eu aussi une pandémie et on s'était dit qu'il fallait améliorer absolument, mettre beaucoup de ressources. Et là, on se retrouve à avoir une bonne partie des soignants qui ont été d'ailleurs stigmatisés. Au début, on les applaudissait et après, on disait que c'était à cause d'eux qu'on chopait le Covid, alors que c'était absolument faux, parce que même avec le vaccin, malheureusement, on pouvait se tomber malade. Donc, et moi, j'ai fait 3 vaccins, je dois toujours dire, parce que sinon, on passe pour anti-vaccin. Mais je constate qu'après une pandémie, après tout ce qu'on a vécu, il n'y a pas eu une augmentation des ressources pour le monde sanitaire.
Non, mais les 19 milliards du Ségur, c'est sur 10 ans.
Et si vous me permettez...
Pire, Mathéo, il y a un effet d'aubaine. C'est-à-dire que tous les soignants qu'on a virés, vous avez entendu les arguments d'Emmanuel Macron pour ne pas les réintégrer.
Oui.
Ah ben non, symboliquement, ce serait pas bien, etc.
Oui.
Alors que la crise du Covid est fort heureusement, j'espère pour longtemps. Voilà. Effet d'aubaine. Il est ravi de les avoir foutus dehors, hein, et de pas les réembaucher. C'est-à-dire que effectivement,
comme si on pouvait s'en passer de 1500 ou 2000.
Oui, mais c'est pas ça qui changera le problème de l'hôpital.
Non. Mais c'est comme si on pouvait s'en passer vu qu'on était.
Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Bon, il nous reste assez peu de temps, mais continuons tout de même sur l'hôpital. Manifestation aujourd'hui et mobilisation des soignants avec une grève. Malgré tout, les médecins continuent à assurer les soins. C'est ça qui est aussi terrible, c'est que ce sont des gens qui ont de la conscience, qui ont leur métier chevillé au corps pour combien de temps, on ne sait pas. Quelle solution pour l'hôpital? Je sais qu'on ne va pas y répondre comme ça en 5 minutes, mais les revalorisations de ça, peut-être changer le système, je ne sais pas ce qu'on peut... Samuel Lafont.
De même que pour l'insécurité, on sait que si on n'agit pas maintenant, on est certain que la situation va encore se détériorer. C'est-à-dire qu'il y aura encore plus de fractures, une fracture rurale qui va s'amplifier, donc des Français qui auront encore plus de mal à se soigner hors des métropoles, et on sait que l'accès à l'hôpital va se limiter et qu'on aura encore moins accès aux urgences ou qu'on va attendre encore plus longtemps. C'est certain, si on n'agit pas maintenant, la situation va empirer. Effectivement, on parlait du problème, de la question de l'intérim, la réalité c'est qu'il y a des médecins qui se retrouvent par rapport aux besoins, sous-payés, et alors qu'on sait qu'on a besoin d'eux. Souvent ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait moins d'administratifs et plus de soignants, mais il faut aussi que... politique fasse des choix. On a un problème en France depuis des décennies, c'est qu'on a des gouvernements qui refusent de faire des choix prioritaires en disant qu'est-ce qui compte aujourd'hui. Mais par exemple, on peut dire que ce qui compte pour les Français, c'est la sécurité, c'est la baisse des impôts parce qu'on est dans un état quasiment communiste avec le niveau d'impôts qu'on a en France, c'est le niveau, c'est la santé, et on a l'impression que l'argent des Français est gaspillé, à tout va. Dans des subventions, dans des, on parlait de la politique de la ville dans les banlieues où on a dépensé des milliards et des milliards sans résultat. Et à un moment, il faut que le politique fasse des choix stratégiques. Pour l'instant, on a l'impression que l'argent public, c'est l'argent magique, qui peut être dépensé n'importe où. Non, il y a des priorités, et une des priorités, c'est la santé des Français, c'est l'hôpital, ce sont les soignants.
Oui, Régis.
Oh, moi, je suis assez d'accord sur la dimension choix politique. Je pense que si vous voulez, l'État néolibéral qui est celui souhaité par Emmanuel Macron est là pour effectivement assurer le libre fonctionnement du marché. Hein, tout ce qui est pris en charge collectivement, c'est-à-dire il y a d'abord les fonctions régaliennes, mais il y a aussi les grands services publics, sont abandonnés. Mmh. Et ce qui est extraordinaire dans le macronisme, c'est que, effectivement, y compris les fonctions régaliennes, hein, sont traitées de la même façon, c'est-à-dire que les moyens de la police sont extrêmement faibles, sauf de la police de répression sociale, on en a parlé tout à l'heure, hein, et les moyens de la justice, non mais si vous voulez, c'est un véritable scandale. Je veux dire, ce qu'est le budget de, on est là ridicule en Europe sur ces éléments. Quant à la santé, elle est en train de partir. Alors c'est plus subreptice parce que on s'en aperçoit, on le mesure quand on a besoin d'avoir accès aux services de santé. Mais ce qui attend notre pays est quand même relativement tragique parce que je rappelle que M. Macron a été élu avec 58% des voix le 24 avril dernier. Il a été requalifié largement et que je pense qu'il aura une majorité parlementaire.
Ouais, on peut en dire quelques mots parce que c'était la transition, c'était l'un de nos thèmes. Il nous reste plus beaucoup de temps. Majorité arrive quand même en tête sur 10 des 11 circonscriptions à l'étranger. Néanmoins, on peut s'interroger sur l'attitude même d'Emmanuel Macron pour cette campagne des législatives. Alors, Alexandra Spinner.
Oui, moi je suis vraiment choquée du fait que la peur soit devenue vraiment un angle électoral. C'est tout à fait insupportable. On nous a d'abord expliqué que la peste brune allait déferler sur la France. D'accord. Et maintenant, M. Mélenchon, c'est l'idiot utile de M. Macron. On nous explique que les bolcheviks vont arriver avec leur couteau entre les dents. Je crois que tout ça n'est pas sain pour la démocratie. Voilà. Je pense qu'il est important que tous les courants politiques soient exprimés et la peur ne peut pas être un argument électoral.
Le problème, c'est que le système électoral est au bout de souffle en France, parce que ce majoritaire à double tour ne permet pas de représenter... Oui, voilà. Ne permet pas de représenter les différentes couleurs de la société de façon réaliste, je trouve. Et je pense aussi que Macron a joué un petit peu avec le feu parce qu'effectivement, il a fait un calcul, comme c'est son habitude, cynique, en favorisant la gauche, en fait, pour être élu au présidentiel. Et là, j'ai un peu l'impression qu'il y a un effet boomerang parce qu'effectivement, déjà, gens qui n'en peuvent plus de Macron parce qu'il les a déçus justement dans toutes ces politiques régaliennes. Ils disent pourquoi pas essayer de changer juste pour changer. Sauf que ça ne sera pas l'augmentation des impôts promise par Jean-Luc Mélenchon qui fera changer la qualité du système sanitaire, la qualité du système de sécurité. On va dire, je pense qu'elle baissera un petit peu. Je pense qu'il y a un problème en amont de représentativité de la société et qui se traduira malheureusement encore une fois en beaucoup de bruit dans la rue.
Oui, je pense qu'effectivement il y a aussi un problème de représentativité avec le système actuel, mais l'important là c'est de ne pas se faire avoir. Emmanuel Macron utilise la gauche pour faire peur à une partie de la droite qui n'aime pas Emmanuel Macron mais pour récupérer un maximum de votes pour lui-même. Emmanuel Macron se sert de vous en vous faisant peur avec Jean-Luc Mélenchon pour récupérer vos votes. Si vous n'avez pas aimé Emmanuel Macron et son bilan au bout de 5 ans, ne vous faites pas avoir à nouveau pour l'initiative.
Vous l'avez dit. Merci à tous les quatre. Dans un instant, André Bercoff. Très bonne journée.